Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour. Voilà, le mois de juin, l'été arrive et on va parler dans cette émission des livres de l'été. Alors, j'ai sélectionné trois livres, bah, malgré la multitude d'ouvrages que nous recevons en ce moment. Trois livres, le livre de Christine Gauquet, j'en vais vous parler, elle va vous dire qui elle est, c'est elle qui va vous parler d'elle. Son livre « Les grands hommes et le diable » aux éditions du Rocher. Alors c'est une émission avec les éditions du Rocher, c'est un festival éditions du Rocher. Nous aurons ensuite Julien Donadil. Alors Julien avec un livre dont on parle beaucoup actuellement, qui sera certainement, et je lui souhaite, un des grands livres de l'été. Vous savez, à l'époque on parlait du livre de l'été, moi je travaillais avec Robert Laffont, on avait inventé le livre de l'été. C'était Dominique Lapierre, Le Parrain, Papillon, tout ça. Et le livre de l'été est resté pour moi important. Et là, je pense qu'avec La Sultane Corse, ce livre est tout à fait destiné à être un grand livre de l'été. Julien Donadil, on va venir sur vous, on va parler un petit peu aussi de ce que vous faites. Parce que vous avez, on se connaît depuis très longtemps, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance, Julien, d'avoir Julien, il avait 20 ans, il était étudiant, j'enseignais à l'ESCP, et j'avais comme étudiant, un jeune étudiant, qui s'appelait Julien Donadil, et il est en face de moi aujourd'hui avec son magnifique livre, La Sultane Corse, c'est un vrai bonheur. Et nous attendons, il n'est pas arrivé, alors c'est normal, il vient en vélo, frère de Guidon, Florian Coupé. Alors lui, c'est un aventurier formidable, il est allé jusqu'en Corée à vélo, il a fait plusieurs voyages en vélo, le tour de la planète en vélo. Bon, moi j'ai fait un peu de vélo, mais ça s'est arrêté à... Mon parcours le plus grand, c'était de Paris jusqu'à Deauville, et j'ai beaucoup souffert. Voilà. Voilà. Alors Christine, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous ?
Bonjour Jean-Paul, merci de m'accueillir dans votre belle émission. Écoutez, moi, je suis donc journaliste, auteur, 30 ans de journalisme, et j'écris des livres d'histoire, voilà. Mon dernier livre portait sur les grands hommes et Dieu, le rapport des grands hommes au divin, ouais. Et la suite logique de cet ouvrage, c'était d'explorer désormais la face cachée et la face obscure même de ces grands hommes et de ces grandes femmes. Donc, Les grands hommes et le diable, c'est un voyage à travers l'âme de ces personnages illustres de l'histoire. Il y a une quinzaine de biographies assez simples à lire, voilà, et qui racontent quelle est leur face cachée, quelles sont leurs failles, leurs faiblesses, voire leurs forfaitures parfois. Enfin, vous découvrirez une galerie de portraits qui est parfois un peu gratinée, oui, on peut le dire.
Je l'avoue, j'ai remarqué.
Voilà, et qui voilà, déboulonne un peu ces icônes.
Alors j'ai trouvé qu'il y avait plus d'hommes que de femmes.
Alors c'est vrai que j'ai quand même cherché plus à trouver d'autres femmes et que je trouve que quand même les femmes sont plus entières dans l'ensemble. Peut-être qu'il y a peut-être aussi à l'époque moins de femmes reconnues ou connues, ça aussi c'est évidemment l'éducation de l'époque, mais il y a quand même des femmes dans le livre, il y a Simone de Beauvoir qui ne nous aura pas échappé, il y a Gabrielle Chanel qui ne nous aura pas échappé non plus, voilà de grandes icônes féministes en tous les cas pour Simone de Beauvoir, et qui n'existe pas d'ailleurs sans Sartre, évidemment, le couple... infernal, je puis dire, puisqu'on est dans...
Oui, le couple infernal, alors vraiment très libertin, très coquin, très...
Oui, c'est ça.
J'ai découvert un peu, parce que je ne les voyais pas quand je les vois en photo, j'imaginais pas du tout ces personnages-là.
C'est ça, ça encore, on peut leur... voilà, enfin, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, je crois, personnelle et sexuelle, mais ce qui est plus... enfin, moins... morale, on va dire, enfin, si on se place sur le plan de la morale, parce que moi j'ai voulu, en tant que journaliste, poser un regard extrêmement clair, enfin en tous les cas c'est un regard sur la vérité, la justesse de ces personnalités et de leur vérité personnelle, en réalité c'est ça, hein, le travail du journaliste, c'est comprendre, expliquer et mettre au jour la vérité. Voilà, et leur vérité, elle est... Enfin, on revient sur Beauvoir. Quelle est une vie sexuelle telle qu'elle l'a eue ? Ça, c'est une question qui la regarde, à la limite. Ce qui est un petit peu plus particulier, c'est qu'elle a quand même joué un rôle dans la vie de Sartre qui était celui d'une rabatteuse de jeunes filles en fleurs. C'est-à-dire qu'elle était professeure, comme chacun le sait, et qu'elle puisait dans son réservoir de jeunes filles étudiantes pour aller les mettre dans son lit et dans celui de Sartre. Ce qui est quand même un petit peu plus particulier quand même. D'ailleurs, elle a d'ailleurs été licenciée, limogée de l'éducation nationale.
Ça, on n'en a pas
43.
Beaucoup parlé. On ne sait pas ça. On ne savait pas. Moi, j'ai découvert.
On ne sait pas. Bon, alors, je trouve que c'est important justement de remettre un peu l'église au cœur du village, on va dire. Voilà. C'était intéressant. En tous les cas, moi, je me suis penchée sur ces personnalités parce que ce sont des icônes, on a une vision d'elles, donc on va chercher. Bon, voilà, c'est une intuition aussi, le métier de journaliste.
Comment vous avez eu l'idée de ce livre?
Il suit vraiment la logique du précédent qui parlait de la face lumineuse des grands hommes et de Dieu. Donc, de ces grands hommes et de Dieu, j'ai voulu explorer la suite, c'est-à-dire, dans chaque homme, il y a une, chaque femme, il y a des failles. Il y a une face plus cachée. Et donc, il y a eu la face lumineuse.
Très envie de la découvrir.
Il y a eu la face lumineuse et maintenant, il y a la face obscure, voilà. Et pour revenir sur Sartre et Beauvoir, puisqu'on va finir le portrait qui était quand même assez particulier. Tout le monde a lu les mémoires d'une jeune fille rangée. Pour moi, c'était une icône. Je l'ai lu quand j'étais jeune fille, comme j'ai lu La Nausée. Pour moi, ça me transportait. Enfin, je trouvais ça extraordinaire parce que ils ont un vrai génie littéraire.
Dans les années 68, 70, 80, c'était des best-sellers. C'était les stars de l'édition.
Voilà, le récit collectif les a montés en idole et en icône. Et quand on découvre que Beauvoir travaillait à Radio Vichy, que Sartre faisait donner ses pièces de théâtre devant tout le public de la collaboration, par exemple, je ne vais pas dévoiler tout le livre, mais Les Mouches, c'était donné devant tout le public de la collaboration. C'est quand même...
Pervers, méprisant, tyrannique.
Vous avez fait une petite synthèse.
C'est vous qui l'avez écrit, l'entretien de Simone de Beauvoir.
C'était une synthèse.
Le vice et la provocation.
On peut le résumer comme ça, en effet. J'ai pas voulu porter un jugement, parce que je trouve que le métier de journaliste, c'est pas de porter un jugement, c'est juste un diagnostic. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est chacun est libre de regarder la vérité et de porter un jugement ou pas. Moi, j'éclaire la réalité de ces personnalités dans leur intimité. C'est une espèce de psychographie, on va dire.
Comment vous avez recherché, trouvé ces éléments, ces informations, vérifié, parce qu'il faut vérifier, on ne peut pas dire n'importe quoi.
C'est un très gros travail de bibliographie, en fait, effectivement. Il y a des biographies de référence. Évidemment qu'elles sont évidemment accessibles à tous, donc voilà, j'ai évidemment toute une bibliographie citée derrière, donc vous lisez beaucoup, vous regardez et vous, vous dénichez des pépites, on va dire, qui ne sont pas sorties partout. Alors c'est marrant parce que j'étais dans un taxi et il me disait « Mais madame, c'est quand même incroyable, pourquoi alors on donne le nom d'école à des gens comme ça ?» C'est des vraies questions qui sont soulevées parce qu'au-delà de... Au-delà de la réalité de ces personnalités-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un côté presque philosophique.
Vous parlez aussi, vous citez aussi, il y a un chapitre sur André Malraux, qui était quand même un voleur, un mythomane, un mystificateur, qui a été ministre, c'est les mots.
Oui, ça je
qui
sais.
Qui a été ministre. Et moi, je suis allé à Angkor, les temples d'Angkor.
Vous avez vu les statues des Boulénées par Malraux, c'est incroyable.
Bien sûr, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Et on arrive, j'étais là en train de visiter les temples d'Angkor il y a très longtemps, il y avait encore la jungle, on marchait sur des sentiers.
Extraordinaire d'ailleurs.
Où j'étais avec un guide qui ne mettait pas les pieds à côté, il y a des mines à droite et à gauche.
C'est vrai,
il y avait
les mines des Khmer Rouges, exactement.
Coupé le truc. Et là, et on arrive à un moment, on visite les statues, c'est magnifique, il y avait tous ces arbres qui était dans les ruines et tout, et on arrive à un moment et je vois un mur rasé, coupé. Et il me dit, ah là, c'est le voleur, c'est le ministre Malraux qui est venu nous voler.
C'est incroyable.
Incroyable.
Alors pour révéler une anecdote, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent plus ou moins, mais on pensait peut-être qu'il avait ramené deux statuettes de voyage, quoi, voilà.
Mais pas du tout, c'est une expédition.
C'était une véritable expédition.
Expédition de vol avec coupé, il a embauché des gens pour tailler les murs.
Il est parti avec sa femme.
Avec sa femme, à l'époque.
Alors en fait, il tirait le diable par la queue, si je puis dire. Il n'avait pas d'argent. Et donc, il s'est dit, je vais faire un... voilà, un petit casse, mais même un gros casse, puisqu'il est parti avec des charrettes de bœufs pour découper à la scie, comme il n'avait pas assez de force physique. Il est parti avec des gens, avec sa propre femme, la pauvre qu'il a mis dans, quand même, Clara, qui l'a mis dans cette aventure qui n'était pas terrible. Des bateaux qui attendaient les statues. Les statuettes.
C'est incroyable.
C'est inouï.
Incroyable, c'est
et ce donc, il y a quelqu'un qui a cafeté, pardon. Donc, du coup, la personne l'a dénoncé. Il s'est fait arrêter. Il a été condamné à 3 ans, qui sont commués en 1 an et demi, avec sursis, et grâce à ses relations, parce qu'il avait déjà des relations.
Bah, il avait des bonnes relations.
Ouais, il était très habile. Il était copain avec Mauriac, enfin, avec plein de gens très éminents. Et donc, du coup, il n'a pas fait de prison. Mais c'est quand même interpellant, et ça dit quelque chose sur la personne. Hein. Je ne parle pas de la suite, parce que Malraux est quelqu'un de très volage. mais c'est vrai que quand on lit, c'est un peu comme Chateaubriand, finalement. Il invente sa vie, mais s'il invente sa vie, c'est parce que, enfin voilà, c'est aussi son talent d'écrivain, de créateur, et donc il invente sa vie à la fois dans ses écrits et à la fois dans sa vraie vie, quoi, voilà. Mystificateur et mythificateur.
Alors il y a quelqu'un aussi qui m'a étonné, c'est Pablo Picasso.
C'est plus connu, hein.
Hein, c'est plus connu. Alors moi, je me souviens Aix-en-Provence. Parce que je suis un petit peu originaire d'Aix-en-Provence, où j'ai fait toutes mes études d'Aix-en-Provence et j'habite Aix-en-Provence. Et il y avait il y a toujours d'ailleurs une espèce de grande brasserie qui s'appelle Les Deux Garçons.
Ah.
Et j'habitais sur la place Forbin en face des Deux Garçons et Picasso venait déjeuner aux Deux Garçons.
Avec qui?
Bon, il venait,
j'avais dit avec laquelle
j'avais 15-16 ans, alors je savais que c'était
avec
Picasso.
Avec laquelle de ses femmes
que tout le monde appelait quand il était aux Deux Garçons Picassiette, bien sûr, c'était tout facile. et Picasso, je l'ai appris après, on lui mettait une nappe en papier et tout. Et donc, au moment de payer l'addition, il prenait son crayon, il dessinait un petit truc sur le coin de la nappe et les garçons se battait presque pour venir débarrasser. Et au moment de payer, il montrait la nappe. Et,
il disait, j'ai payé.
Il découpait, le gars découpait un bout de la nappe ou emportait la nappe. Et il payait. C'était incroyable, quoi. Et là, vous en parlez, cruel, violeur, destructeur.
En fait, il a quand même une vie avec ses femmes qui est maintenant mise au jour. Hein. Je ne trahis pas de secret. Il y a eu
c'est François
bonne...
Gillot qui vivait avec lui qui disait ça.
Il a été terrible avec ses femmes. Il les a vraiment pas bien traitées, on va dire. Il était quand même très particulier avec sa famille aussi. Il y a deux de ses ex-femmes qui se sont suicidées. On peut quand même dire que Picasso, avec ses femmes, avait une domination qui était redoutable. Hein. Enfin, voilà, pour ne dire que ça. Je pense aussi, et ça c'est important de le rappeler aussi dans le livre, parce qu'on se rend compte après, il y a des choses très inconscientes quand on écrit, hein, c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est aussi, à travers toutes ces personnalités, la condition de la femme qui est explorée à l'époque. Mmh. Et on voit bien que les femmes étaient plus que maltraitées. On le voit avec le grand Victor Hugo, aujourd'hui, on serait à une époque MeToo, exit Notre-Dame de Paris, exit Les Misérables, exit Victor Hugo. Non, mais c'est vrai, il était dominateur avec les femmes, et il y en a beaucoup comme ça. On regardait Marx, on regardait...
Sigmund Freud.
Freud aussi.
Qui était le faussaire ou l'illusionniste, qui était... Vous écrivez dans votre livre « Cocaïnomane, mélagomane et manipulateur ». C'est
manipulateur.
Rien que ça. Rien que ça hein,
en fait, Freud, c'est quand même particulier. Il a toujours couru après la gloire. Et il prenait la psychanalyse qu'il a un peu empruntée à Mesmer et à d'autres gens. Hein, ça, c'est clair, pour arriver à la gloire, ce qu'il a réussi très bien, d'ailleurs. Et en fait, il était vraiment quelqu'un de, pour le moins, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin, comme tous ceux-là, d'ailleurs, hein, pour la plupart, ils ont tous une double face et ils sont surtout en contradiction totale avec ce qu'ils professent. C'est-à-dire que Freud, dans sa correspondance, dit « la psychanalyse, ça guérit pas ». Et pourtant, il prône la psychanalyse partout.
Donc,
c'est pour le moins de la tartufferie, en tous les cas, de l'hypocrisie.
Alors, vous commencez votre livre avec Philippe Pétain. Alors ça m'a un peu étonné de commencer le livre avec Philippe Pétain, égocentrique, buté, sournois.
Clairement. Je pense que je n'apprends rien à personne.
Alors, ah si, vous apprenez des tas de choses, moi j'ai appris
croyez,
des tas de choses.
Ouais,
ah,
croyez,
si,
ouais. Non, sur Pétain, j'entends.
Oh, ben, sinon, si on n'apprend rien à personne...
Non, je n'apprends rien
intérêt,
sur... Non, mais sur Pétain, bon,
regardez,
voilà.
Julien boit vos paroles, là, il est en train de dire plein de choses.
Nous avons en commun la Corse, donc...
Bah oui, la Corse, c'est en commun, voilà. Ça, tous les trois.
Ça, c'est clair, ça dit quelque chose.
On en parlera.
On en parlera,
après.
Mais non, mais Pétain, c'est voilà. Alors c'est un sujet français, on va dire, qui est le grand homme du début, qui est le double visage de la fin. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ça veut dire que dans sa vie, on peut aussi avoir deux faces. Et puis ou alors l'avait-il déjà et il l'a camouflé. Alors moi, je trouve. Alors ce qui est intéressant sur Pétain, c'est aussi son rapport aux femmes. Alors ça,
oui,
c'est quelque chose
parce
que peu
très,
de gens
très,
connaissent.
Très obsédé. Hein.
C'était un obsédé sexuel.
Un grand obsédé.
Ah,
hein.
Oui, il carapatait toutes les femmes qu'il trouvait.
Oui.
D'ailleurs, Nini, qu'il a fini par épouser un peu sous la contrainte, puisqu'elle lui a dit avec carrément un revolver, tu m'épouses ou si tu m'épouses pas,
ah,
je te tue.
Ah, les attachés de presse de Pétain, je peux vous dire que si il ne fallait pas y aller. Hein.
Donc il a fini par se marier, mais il voulait absolument pas se marier. Elle a découvert, une fois qu'il était décédé, une malle complète de lettres, d'amour, de l'ensemble de ses conquêtes. Et il y en avait à n'en plus finir. Je ne parle pas de sa double vie avec Mélia, puisqu'il avait aussi une double vie avec une autre femme. Et ça, on découvre ça, que sur le front, voilà, il avait ses petites aventures pendant que ses soldats se battaient. Enfin, c'est quand même assez, très intéressant, Pétain. Oui. C'est vrai que ce côté... Peut-être.
Ah ouais, moi ça m'a, oui, ça m'a tout à fait étonné de découvrir voilà, des choses pour moi, Pétain. Bon, bref, voilà.
Ouais,
alors, vous parlez
nous,
aussi,
bref.
Vous parlez aussi. Vous avez tout un chapitre aussi sur Che Guevara. Alors ça, le bourreau, ça on le connaissait un peu.
Le petit bourreau, son surnom.
Le petit bourreau, son surnom. Fanatique, insensible, sanguinaire. Et son discours que vous citez aux Nations Unies est quand même élogieux. Quand vous dites, nous avons fusillé, nous fusillerons et nous continuerons à fusiller tant que cela sera nécessaire. Notre lutte est une lutte à mort. Ça, c'était Che Guevara.
C'est Che Guevara. Moi, c'était une icône, le Che. C'est ce médecin formidable qui part.
Le Che, c'était.
Voilà, pour libérer.
C'est même l'icône, je dirais.
Ça a toujours les photos. Non, mais il y a beaucoup de marketing dans tout ça. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant.
Je suis allé à Cuba, circuler Che Guevara. Phénoménal, quoi. C'est...
Oui, et partout, dans la jeunesse actuelle aussi. Enfin,
à
voilà,
Cuba,
le
vous
Che,
avez Che Guevara, le Che et puis Hemingway, quoi.
Et toujours.
Ouais,
toujours, il y a ces photos de ce bel homme. Mort qui a lutté pour sauver les peuples, mais enfin, il les a beaucoup tués aussi. Enfin, et on peut dire qu'il n'avait aucune problématique pour tuer de sang-froid lui-même, ses anciens compagnons, les gens. Et voilà, il a versé dans l'aspect sombre, finalement, de l'aspect obscur de la force, j'ai envie de dire, partant au départ de bons sentiments. Il était un peu fantasque. Hein,
comme... L'enfer est pavé de bons sentiments.
L'enfer, ouais, c'est pour ça. Je pense que dans tout ça, c'est intéressant de voir qu'il n'y avait pas tellement de nuances et que les gens ont versé aussi à un moment donné. Mais comme Rimbaud, regardez Rimbaud.
Rimbaud.
Voilà, le poète qui tutoie les étoiles. Moi, je suis transportée quand je lis Rimbaud.
Magique.
C'est magique, mais quand on se plonge dans la personnalité de Rimbaud, c'est terrifiant. Quoi. Et sa deuxième partie de
une
vie,
horreur.
C'est... Épouvantable.
Épouvantable.
Il abandonne son génie et c'est fini, terminé. Il passe trafiquant d'armes, trafiquant d'ivoire pour avoir la fin tragique que l'on connaît à 37 ans. Enfin, c'était voilà. Mais il peut y avoir plusieurs faces dans l'homme, dans la femme, plusieurs aussi parties de vie parce qu'on peut être différent d'une partie à l'autre de sa vie aussi. La preuve. Donc c'est
avec
très
une
compliqué.
Personne, avec une autre personne.
Avec une autre personne. C'est très très compliqué l'âme humaine. Hein. Je trouvais que c'était intéressant de s'approcher aussi de cette âme humaine puisque les grands hommes ont des faces
donc
cachées, mais les moyens hommes et les moyennes femmes aussi.
Vous avez fait preuve de psychologie, de.
Et je pense qu'il y a une partie psychographique. Ça c'est clair. Parce que
j'ai un peu senti ça.
Oui, c'est tout à fait ça, en fait. Vous l'avez bien senti. Et l'idée, c'était... Je pense que les choses s'éclairent beaucoup par l'enfance. Elles s'éclairent beaucoup par l'enfance. On voit, par exemple, Rousseau qui a un père maltraitant qui le frappe. Sa mère meurt alors qu'il n'a que 2 ans. Et cet enfant qui est maltraité développe des névroses, on va dire. Enfin, ça, je parle simplement, là je ne suis pas du tout dans une analyse psychiatrique, mais quand même, c'est quand même un vrai sujet, et c'est un sujet de répétition, puisque lui, lorsqu'il il arrive à l'âge adulte, il a quand même des fantasmes sexuels où il se fait frapper lui-même. Donc c'est intéressant de voir de quelle manière sa vie sexuelle est impactée par son enfance. Et également, et là beaucoup plus gravement, il sait qu'il il ne va pas être un bon père. Donc il a cinq enfants, et les cinq nourrissons, les uns après les autres, il va les abandonner dans un orphelinat qui s'intitule, malheureusement à l'époque, Les Enfants Trouvés. Et les enfants trouvés, c'est un orphelinat où il y a 70 à 90% de chances que les enfants, quand ils sont abandonnés là, ils trouvent la mort, évidemment. Mmh. Et d'ailleurs, Rousseau ne reverra jamais ses enfants, il n'aura plus jamais aucune nouvelle de ses enfants. Et lui se justifie, notamment auprès de Voltaire, auprès de plein de gens, en disant « Mais c'est mieux comme ça, finalement, parce que c'est mieux que d'avoir un père fripon. » Donc ça, c'est certainement très...
Incroyable.
Relatif à son enfance.
Bien sûr.
Chanel, c'est pareil. Coco
Alors, j'allais
Chanel.
Parler de Chanel, de Gabriel Chanel. Bon, vous n'êtes pas Chanel, non.
Je vois, j'ai non, pas non, je ne suis pas Chanel aujourd'hui.
Une liaison dangereuse avec l'occupant nazi.
Oui, entre autres.
C'était quand même... elle était sèche, elle était arriviste, elle était cynique, elle était... C'était...
Oui, et puis Sleeping with the Enemy, quand même. Enfin, oui. Voilà, elle a eu une liaison avec un officier nazi. Et les archives récentes montrent que Chanel aurait eu un numéro d'agent secret. Donc, bon, à vérifier, je n'ai pas eu consulté ces archives, mais néanmoins, c'est ce qui apparaît. C'est quand même particulier. Alors, je dis, Chanel a... Elle a cette enfance épouvantable également, comme Rousseau, comme Pétain. Elle est très proche de son père l'abandonne, sa mère meurt. Elle est placée, donc chez sa tante. Elle est malheureuse comme une pierre, et qu'est-ce qu'elle se dit ? Moi, je vais tout faire pour arriver à me sortir de ça, en fait, c'est ça. Donc, elle va épouser cette ambition qui va la mener là où elle est, parce qu'elle a évidemment le talent d'une très grande créatrice. Mais pendant la guerre, elle va jusqu'à renier les Vertémères, qui sont son actionnaire, en s'appuyant sur les lois anti-juives de Pétain. C'est quand même épouvantable.
Mais ça, on n'en parlait pas beaucoup
On n'en parle pas, mais je trouve que la lumière triomphe des ténèbres, puisque les Vertémères sont à nouveau les actionnaires de Chanel, et ils ont récupéré Chanel après tout ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Donc je pense qu'il faut rester sur cette note positive.
Voilà. Alors on va terminer, je le garde pour la fin, il y en a d'autres personnages dans votre livre, mais on va terminer avec quelqu'un qui est très proche de nous, vous devinez de qui je veux parler, de François Mitterrand, le maître du double jeu.
Alors ça...
Dans votre livre. Mais... Opportuniste, hypocrite, volage...
Alors pour moi,
qui disait « Croyez-vous que mon âme s'en tirera ?»
Alors il était évidemment un très grand catholique au départ, comme vous le savez, qui était plutôt un homme totalement de droite, qui a épousé les causes de Pétain et même la personne du maréchal. Il faut quand même se rappeler de la Francisque.
Bah, c'était le prince de l'ambiguïté, si vous commencez
sur... Pour moi, c'est un élève de Pétain. Hein. Vraiment, je pense que là, ils se rejoignent complètement. Hein. Et je pense que c'était peut-être certainement son modèle, puisque... Bon, voilà, dans la Francisque, on sait très bien qu'on dévoue
Jarnac dans une famille catholique, de droite...
Père Brancardier à Lourdes. On est aux antipodes des valeurs, en tous les cas, qu'il professait comme homme de gauche, ça c'est clair. Je ne parle pas de sa vie intime que tout le monde connaît.
Non.
C'est le prince de l'ambiguïté.
Alors, j'ai choisi une chanson... Qu'on va passer, que vous connaissez sans doute, ou que vous avez connu, vous allez écouter. On va en parler après.
Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va, Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend mais tout s'achète, l'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette, en anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars, venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare, dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition, et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds, mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens, ça va, ça va, ça va, ça va.
Eh bien voilà, c'est une magnifique chanson. On ne la connaît pas, peu de gens la connaissent. Elle a été écrite en mars 1954, chantée au départ par Juliette Gréco, écrite par Brel, par Jacques Brel. Elle en vient écouter Brel, plus que jamais d'actualité aujourd'hui cette chanson. Ça va. Précipitez-vous, allez sur internet parce que vous aurez du mal à la trouver en disque ou en CD, entre les CD d'aujourd'hui. Mais c'est une magnifique chanson qui date de 1954 et j'ai trouvé qu'elle illustrait magnifiquement votre livre que je rappelle, Les grands hommes et le diable, aux éditions du Rocher. Christine Gauquet, vous restez dans l'émission, on va encore en
merci
parler.
Merci infiniment Jean-Paul, enfin en tous les cas merci aussi pour la chanson parce qu'on a tous appris quelque chose de... Voilà, moi c'est mon chanteur préféré, Brel, et je méconnaissais cette chanson, qui est ou divine, ou diabolique, ou les deux.
Écoutez, je suis ravi que ça vous ait fait plaisir et que vous ayez apprécié. Voilà, Christine Gauquet, Les grands hommes et le diable. Aujourd'hui, Christine, vous faites quoi ?
Alors aujourd'hui, je continue à écrire et puis je fais la promotion de mon livre auprès de vous. J'espère qu'il vous plaira.
Vous avez une autre activité ? Non.
J'écris, voilà.
C'est une bonne...
C'est très prenant, très hein, vous savez, un livre comme ça prend
aussi,
deux ans et demi
aussi,
à écrire.
Je connais aussi, vous avez la chance d'être dans une belle maison, édition du Rocher, et d'avoir une attachée de presse qui se bat pour vous d'une manière formidable.
Oui, Sylvana, merci, elle est formidable.
Voilà, on va enchaîner. Alors, on finira avec Florian Coupé. Alors, avec Florian, j'ai plein de trucs un petit peu en commun avec lui, les chasseurs alpins, des tas de choses.
Et le barou, apparemment. on m'a dit que vous étiez un grand voyageur deux roues motorisées.
En deux roues, pas en vélo. Alors, vélo, mes grands parcours, c'est de Paris à Deauville, où j'ai une maison première en Normandie. Ça fait 230 km pour des petites routes.
Voilà.
Mais sinon, c'est plutôt à moto que je fais tout ça. Et j'ai fait à moto, on en parlera. Je suis monté dans l'Himalaya 6000 mètres en moto, j'ai fait plein de trucs, parcouru le monde en moto, et je suis toujours, mon casque est là, je suis toujours à moto. Quoi. Mais
très
on
bien.
Va revenir avec vous, Florian, après pour parler de votre livre. On va enchaîner tout de suite avec la Sultane Corse, et on va parler de la Corse avec mon ami Julien Donadil. Alors avec Julien, on va le redire, j'ai une petite aventure avec Julien. Aventure. Quand je dis aventure, dans le sens belle rencontre. Voilà, Julien était un de mes étudiants à l'ESCP.
Il y a 25 ans, on peut le dire.
Il y a 25 ans. Et je le retrouve aujourd'hui. Donc il a bien suivi mes cours. Maintenant, il écrit des livres. Il passait un master management d'édition 2. C'était un brillant élève à l'époque déjà. Et Julien Donadil vient de publier un livre, La Sultane Corse. Alors, cette Sultane Corse, Comment vous êtes venu, Julien, comment t'es venu, on va se tutoyer parce que ça...
Avec plaisir.
Voilà. Comment t'es venu cette idée d'écrire un livre sur la sultane corse, cette histoire est fantastique, quoi.
Je vais répondre à cette question, mais je vais d'abord répondre à la question précédente qui n'était pas posée. Dans ce master management de l'édition, bon, on a eu un certain nombre d'intervenants tout au long de l'année, mais je dois dire que j'ai gardé le souvenir de deux intervenants qui m'ont vraiment fortement marqué. Jean-Paul Nadéo, qui est en face de moi, sur l'aspect plus commercial, distribution du livre. Du et livre, puis Alain Nave, qui nous faisait les cours la fabrication du livre.
Oui, la fabrication.
Et c'était vraiment très, très formateur. J'en garde un grand souvenir. Merci voilà, pour
écoutez,
ça.
Je suis ravi que vous dites ça et que je suis ravi de vous retrouver parce que ça a été pour moi, j'étais à l'époque directeur général de cette maison qui s'appelle Larousse et on m'avait demandé d'intervenir à l'ESCP dans ce master management d'édition qui n'existe je crois plus aujourd'hui, je crois qu'ils l'ont supprimé, enfin je ne sais pas. Et ça a été une expérience aussi fantastique pour moi d'avoir master 1, master 2 pendant près de 7-8 ans, une vingtaine d'élèves chaque année, d'étudiants. Que je retrouve de temps en temps très peu, de temps en temps j'ouvre la porte d'une maison d'édition, je rentre, on ouvre la porte et je vois une jeune femme ou un garçon qui sort, ah bonjour, vous vous souvenez de moi, oui bonjour, vous êtes qui? Vous étiez mon prof à l'ESCP. C'est toujours assez marrant. Voilà, alors Julien,
alors, la Sultane
on va
Corse.
Parler de votre livre La Sultane Corse.
Alors, je vais répondre à la question sur le point de départ. Il y a un faux point de départ qui ne m'a pas inspiré, mais qui convient de mentionner, c'est qu'il y a eu une sultane corse. Alors, il faudrait plus proprement parler de l'épouse du sultan, puisque le titre de sultan était porté par les hommes, mais pas par les femmes. Mais une Corse a été rasiée par les barbaresques, c'est un peu l'histoire que je raconte dans le roman, ouais. Et s'est retrouvée au harem du sultan du Maroc et est devenue sultane sous le nom de Davia. Mais son vrai nom était Marthe Franceschini, donc c'est vraiment quelqu'un de bien identifié. Moi, c'est pas mon point de départ, et je dois dire que j'ai découvert cette histoire en écrivant le roman, en réalité. Donc l'idée de la sultane, je l'avais eue avant de savoir même qu'une sultane avait existé. J'étais d'ailleurs plutôt inspiré par un autre personnage historique qui a existé, qui s'appelait Hassan Corso, qui lui est devenu, chef d'État en quelque sorte à Alger. Il y a eu comme ça un certain nombre de Corses qui sont partis de Corse pour aller en Afrique du Nord, certains de manière volontaire, mais beaucoup en étant effectivement rasiés, parce qu'on appelle les barbaresques. Les barbaresques, c'était des corsaires qui agissaient au nom du sultan ottoman, mais qui étaient souvent des marins originaires plutôt d'Afrique du Nord, qu'on appelait à l'époque la barbarie, d'où le nom de barbaresque. Donc ma sultane, elle a été aussi rasiée comme Davia, mais elle se retrouve au harem du sultan ottoman, donc à Constantinople. Et c'est, disons, le point de départ de toute cette histoire. Cette idée de radia barbaresque et de sultane, en réalité, c'est une vieille histoire pour moi. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. J'ai des origines corses, ma mère est corse. On a toujours la maison de famille qu'on fréquente chaque année. Et je suis très attaché à ces racines corses. Et donc, dès l'adolescence, quand on fréquentait le village, la mer, c'était évidemment bien souvent l'été, j'avais découvert cette histoire des radiaires barbaresques. Le village de ma mère a été radié plusieurs fois à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Et très tôt, j'ai imaginé d'écrire un roman sur ce sujet, qui aurait été un roman vraiment historique. Bon, en réalité, ça n'est pas ce roman-là que j'ai écrit, mais malgré tout, dans le roman que j'ai écrit, on trouve ce roman-là, qui est écrit par un des personnages de l'histoire. Donc l'histoire, en réalité, elle ne se passe pas du temps des radias barbaresques, elle se passe de nos jours, dans un village du Cap Corse, et il y a un fil conducteur. Peut-être que je révèle trop de choses, là j'avance un peu trop peut-être dans la conversation.
Non, c'est très très bien, je vous écoute.
Il y a un fil conducteur qui est un tableau fictif de Zurbaran qui n'est pas un peintre fictif en revanche. Et ce fil conducteur me permet justement d'entretisser avec l'histoire du roman qui se passe de nos jours une partie de l'histoire de la Corse depuis le XVIIe siècle. Donc ça me permet de parler à la fois des razzias barbaresques, mais aussi de tous les Corses, et notamment des Cap-Corsins, qui sont partis en émigration en Amérique latine. Certains ont fait fortune et sont revenus et ont bâti dans le Cap-Corse.
Ont bâti des maisons magnifiques.
Voilà, ce qu'on appelle les maisons d'Américains.
Des maisons à Pinot, par exemple, Masinaccio.
Tout à fait.
Pour bien connaître cet endroit-là aussi.
Et ils nous ont laissé ce patrimoine qui est réellement aujourd'hui un patrimoine historique pour le Cap-Corse. Et puis voilà, je parle aussi dans le roman du nationalisme plus récent, du banditisme. Donc j'essaie d'entretisser l'histoire de la Corse avec l'intrigue romanesque à proprement parler.
Une grande fresque à la fois historique, romanesque, où on baigne dans la Corse. C'est-à-dire que quand on rentre dans votre livre, on ne le lâche pas, on se demande ce qui va se passer, on rencontre la fille de cet oligarque en fuite dans le Cap-Corse, c'est ça.
Qui s'appelle Denise, oui.
Voilà, qui part avec dans les bras un tableau dans une toile, un tableau du peintre Zurbaran. Alors je ne sais pas si les gens connaissent Zurbaran, vous avez peut-être regardé un petit peu qui il était. C'est un peintre espagnol contemporain de Velázquez.
Tout à fait.
Et elle part avec ce tableau, et c'est une copie de ce tableau en fait. C'est c'est pas tout à fait, vous me corrigez, hein, parce que
non,
c'est vous
c'est
qui
ça,
l'avez
c'est
écrit.
Ça,
hein.
C'est ça.
C'est une copie de ce tableau, et elle part, et il débarque en Corse, et ils arrivent là-bas, ils montent dans un village. Alors le nom du village n'est pas un nom... C'est, vous l'avez imaginé, parce que c'est pas un nom fictif. Il existe ?
Alors non, en fait le village s'appelle Nocciolo,
oui.
Donc ça c'est un nom corse. Alors Nocciolo c'est plutôt italien, en Corse on dirait
oui, Nocciolo. Nocciolo oui.
Noisette.
C'est ça exactement, le noisetier.
Ouais, les spécialistes.
Et la marine du village s'appelle Saint-Matour en version francisée, mais je précise dans le roman que le nom corse est Saint-Matouri. Voilà.
Oui.
Bon, en réalité, ces deux villages sont fortement inspirés de ce que je connais bien, des villages que je connais bien dans le Cap-Corse. Mais simplement, j'ai un peu outré, disons, le contraste entre le village de la montagne et la marine. Parce que ça, c'est vraiment la façon dont le Cap-Corse et les villages du Cap-Corse sont organisés. C'est-à-dire qu'il y avait le village dans la montagne, et ce village dans la montagne avait un débouché maritime pour pouvoir exporter ses productions, bien souvent des productions de cédra, notamment, de vin. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, le rapport entre le village et la marine s'est inversé, puisqu'évidemment, les villages se vident, ça c'est le cas dans toute la France, au profit de la marine qui, elle, trouve une forme d'activité économique dans le tourisme, le tourisme balnéaire, la plaisance, etc. Et donc moi, j'ai outré ce contraste en faisant du village de la montagne vraiment un hameau en voie de désertification, et en faisant de la marine une grosse marine avec un port de plaisance, avec des bateaux de pêche, etc.
Voilà. Donc on sent très bien dans votre livre que vous n'êtes pas ce qu'on appelle en Corse un pinsuto.
Ah ben oui, alors mes cousins diraient que je suis un demi-pinsuto parce que mon père n'est pas corse, comme mon nom de famille l'indique. Mais en tout cas, je connais bien cette terre, j'y suis très attaché, j'y ai non pas vécu, mais en tout cas je l'ai beaucoup fréquentée, je continue de beaucoup la fréquenter.
Alors on a tout le parcours de cette... dans le maquis corse, là, il y a cette arrivée dans ce village. Ils arrivent, donc ils ont quitté
Istanbul.
Ils arrivent là comme des pauvres, quoi. Ils sont complètement, on dirait aujourd'hui des émigrés. Mmh. Ils débarquent en Corse et ils vont monter dans ce village des rencontres. Et là, ils rencontrent des gens. Ils rencontrent la population. Ils rencontrent des gens qui les accueillent et une maison. Et une maison qu'ils vont délabrer, qu'il avait habité, c'est ça ?
Alors, c'est sa maison de famille,
c'était sa
en
maison
réalité,
de famille.
Où ont habité ses grands-parents, arrière-grands-parents, mais dont il a hérité d'abord par sa mère, qu'il a continué à fréquenter avec sa mère quand il était adolescent, comme maison de vacances. Simplement, la maison, elle a été fermée il y a 40 ans. Lui n'a plus fréquenté la Corse parce que c'est un universitaire spécialiste du monde turc, donc il a beaucoup beaucoup voyagé, il n'avait pas vraiment le temps ni l'envie de retourner en Corse, et donc cette maison est restée fermée pendant 40 ans. Simplement là, Il fuit Istanbul avec Deniz, dont le père, qui est un richissime oligarque turc d'origine azérie, vient d'être mis en prison par le pouvoir d'Erdogan. Et elle doit se cacher. Elle doit partir, elle doit se cacher parce qu'elle ne sait pas quelles sont les intentions du pouvoir turc, si elle risque d'être arrêtée elle-même, on risque de faire main basse sur les avoirs de son père. Donc voilà, elle a besoin de fuir et de se cacher. Et il se trouve que cette universitaire français, corse, avait des rapports avec son père, pour différentes raisons qu'on découvre au fur et à mesure du roman. Et voilà, il y a cette opportunité, cette maison qui est restée fermée pendant 40 ans, qui forme une cache formidable pour ces deux fuyards.
Voilà, alors il y a la relation avec les habitants de ce village qui les accueille, comme on peut accueillir en Corse au
fraîchement.
Au début. Fraîchement, comme on peut être accueilli en Corse au début, très, très fraîchement, très là. Et puis la relation va s'installer.
C'est ça, c'est-à-dire que quand je dis fraîchement, les Corses sont réputés pour leur hospitalité, mais l'hospitalité des Corses, elle est corrélée avec le... Enfin, c'est un peuple fier, ça je l'apprendrai à personne, et elle est corrélée avec le respect qu'on témoigne aux Corses et à la Corse, c'est-à-dire que j'entends pas défendre ici des pratiques non défendables, mais en tout cas, en Corse, on est bien accueilli si on fait en sorte de l'être.
Voilà. Ah ben, je vous confirme ça pour avoir fait moi-même un livre sur la Corse, Éternelle route Corse. Là, j'ai été accueilli partout, dans des endroits formidables, dans des villages. On m'a fait partager les repas, on m'a fait découvrir la Corse. Et tout dépend de la manière dont vous êtes avec le Corse, quoi. Si vous arrivez en terre conquise comme un Parisien qui arrive, alors là ils aiment pas trop.
C'est ça.
Mais quand vous êtes proche d'eux, l'accueil est fantastique.
Tout à fait. Ben voilà, c'est exactement ça. Alors dans ce village, bon, déjà j'ai dit, il est en voie de désertification, donc il ne reste pas grand monde en réalité. Il y a une quinzaine de personnes qui habitent, en tout cas à l'année, dans le village, dans le hameau de la montagne. Il y a beaucoup plus de monde dans la marine. Et la façon dont j'ai construit ces personnages, chacun représente un certain rapport à la Corse en réalité. C'est-à-dire que mon livre ne parle, enfin parle beaucoup de la Corse, mais je veux dire, mon livre parle surtout de la diaspora, c'est-à-dire des Corses qui ont quitté la Corse. Ça, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher loin cette idée. Hein. Moi, ma mère, ils étaient 9 frères et sœurs dans la famille, même 10, il y en a un qui est mort en bas âge. Et sur les 9, y en a 8 qui ont quitté la Corse, il y en a un qui est resté en Corse.
Et ça, ils sont revenus en Corse après ?
Alors, ils ont continué à la fréquenter toute leur vie, et puis certains s'y sont réinstallés pour la retraite. Mais enfin, il y en a quand même 8 qui sont partis, et ça dit quelque chose de la Corse et de l'histoire de la Corse, parce que c'est évidemment pas propre à ma famille, et puis c'est d'ailleurs pas tout à fait propre à la Corse. On peut observer la même chose dans les villages italiens, par exemple. Voilà, il y a eu une très forte émigration des Corses. Beaucoup sont partis dans les colonies. Il y a une chose qu'on sait peu, mais c'est que un quart du personnel colonial, en tout cas de la hiérarchie coloniale dans les colonies françaises, était composé de Corses. Un quart, alors que la Corse, c'est 300 000 habitants. Donc ça, c'est quand même très frappant. Donc beaucoup de Corses sont partis dans les colonies. Certains sont partis en Amérique, un peu plus tôt. Ça, c'est plutôt à la fin du 19e siècle. Et puis beaucoup sont partis sur le continent. Et donc moi, j'ai construit mes personnages dans ce village à partir... Enfin, comment dire certains ne sont jamais partis. Ils sont là. D'autres sont partis du village, mais se sont installés dans la ville d'à côté, à Bastia en l'occurrence. D'autres sont partis, mais sont revenus. D'autres, ce sont leurs grands-parents qui sont partis. Et puis, au bout de cette histoire, il y a Denise, donc le personnage principal, qui, semble-t-il, descend d'une sultane qui aurait eu des origines corses.
Voilà. Voilà, alors là, le livre, l'énigme va monter. Il y a ce tableau, il y a ces recherches... Comment vous avez travaillé pour avancer comme ça ? C'était de l'imagination pure, vous avez...
Alors bon, moi dans tout ce que j'écris, je me documente toujours beaucoup.
Oui,
c'est d'ailleurs un gros enjeu de mon écriture, parce que c'est une fois qu'on s'est beaucoup documenté... On a envie de tout dire, mais évidemment, ça n'est pas possible. Et non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas souhaitable. Donc, il faut arriver ensuite à digérer suffisamment toute cette documentation pour qu'il n'en reste, au fond, dans le roman, que l'écume, qu'elle vienne comme ça nourrir, donner une coloration au roman, mais qu'elle ne vienne pas peser dans la narration. Et donc c'est un travail de tamisage très fin à faire pour que pour nourrir l'intrigue sans effrayer le lecteur. Je ne crois pas l'avoir fait. Je pense que c'est un roman qui est très très romanesque. Et comment j'ai travaillé je me suis beaucoup documenté. Bon, j'ai aussi voulu essayer de retrouver, et ça c'est pas du tout de l'ordre de la documentation, mais mes émotions intimes.
Vous avez une sensibilité corse, on la ressent dans le texte, dans l'écriture, où je le disais tout à l'heure, on sent le maquis, quoi, on sent le...
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver mes émotions intimes d'enfants, d'adolescents, plus récentes, de personnes qui a fréquenté la Corse, qui aime la Corse, tout simplement. Et au fond, ce travail de documentation, pour moi, ça a été une façon de retrouver aussi mes racines corses, mais par un autre angle, par l'angle de l'histoire et de la littérature. Et au fond, ça a été une conjonction un peu tardive entre ce qui était vraiment du ressort du vécu dans l'île et puis ce qui était du ressort du travail bibliographique.
Alors Denise, elle transporte cette toile qui est une copie. Alors il faut dire que la sultane était d'origine corse et a été séquestrée, je ne sais pas comment le dire, par les
barbaresques.
Par les barbaresques, là, et elle repart sur les traces de son ancêtre pour retrouver cette toile. C'est un peu ça que...
C'est ça. Alors, il faut dire Denise, et non pas Denise.
Denise.
Je le dis parce que ma mère s'appelle Denise, et ça n'est pas un hasard si le personnage s'appelle Denise. Mais
on a compris
c'est, donc,
que la sultane était la maman.
Denise, voilà, c'est le prénom turc, et Denise, c'est le prénom français. Denise en turc, ça veut dire la mer, tout simplement. Et je le dis à un moment donné dans le livre, c'est la
mer maritime. La
sultane a été nommée Denise quand elle est arrivée à Istanbul parce qu'elle venait de la mer. Voilà.
Mer maritime, attention.
Ouais.
Pas la mer.
Oui, tout à fait. Oui, pardon.
Hein,
pardon.
Moi, j'étais parti sur.
Excusez-moi, je suis un peu turquisan. On en parlera après.
Oui.
Effectivement, il a la mer Noire au nord de la Turquie, donc c'est la Kara Deniz.
Exactement.
Par exemple.
Oui, voilà. Oui, bravo, on en parlera après alors.
Donc, j'ai perdu le fil de la question entre temps.
Mais la sultane d'origine corse a été capturée. Par les Turcs,
et Denise retrouve cette histoire. Voilà. Denise reconstruit cette histoire, c'est-à-dire que Denise, bon, elle, c'est une jeune fille, hein, elle a moins d'une vingtaine d'années quand elle arrive dans le village, et au fond, cette histoire, cette vieille histoire de sultane dont elle descendrait par sa mère, qui intéressait beaucoup son père à elle, parce que le père, lui, c'est un homme de pouvoir, un homme d'argent, et cette histoire de sultane l'intéressait. Mais en revanche, la fille, elle, bon, s'était jamais trop penchée là-dessus, et puis il se trouve qu'elle arrive dans ce village, qu'il y a un contraste fort, je m'amuse d'ailleurs du contraste entre cette jeune fille qui vient d'Istanbul, donc une très très grande ville, très urbaine, et puis ce village qui est un peu déshérité. J'inverse un peu le préjugé habituel qui est que c'est plutôt les gens du nord, des pays du nord, qui sont des urbains et qui vont regarder d'un peu haut les personnes des pays du sud. Là, c'est le rapport qui est inversé. Donc, elle arrive dans ce village, elle n'a pas grand-chose à faire, elle est un peu désœuvrée. Et donc, petit à petit, elle se prend de passion pour l'histoire de cette sultane et elle cherche à la reconstruire. Et en même temps qu'elle cherche à reconstruire l'histoire de la sultane, elle cherche à reconstruire l'histoire du tableau, puisque le fil conducteur,
oui,
encore une fois, c'est le tableau.
Ce tableau qui représenterait le baptême du fils, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça qui est sulfureux, c'est que le sultan ottoman, il est non seulement le sultan de l'Empire ottoman, mais il est également le calife de l'islam à l'époque, et donc on dit que, ça, le roman ne tranche pas sur la vérité de cette légende, mais on dit que cette sultane aurait en secret... Donc, conserver au cœur le christianisme, puisque évidemment les sultanes étaient musulmanes. Hein. Toutes ces jeunes filles qui ont été radiées et envoyées dans les harems, elles étaient converties à l'islam. de gré ou de force. Et elle, elle serait restée chrétienne dans son cœur et elle aurait baptisé en secret son fils, donc le sultan, le calife de l'islam. Et les jésuites s'emparent de cette histoire et en font un argument de propagande, en quelque sorte, d'où le tableau, puisqu'en fait, le tableau est commandé par les jésuites à Zurbaran, au départ, le tableau initial, celui qui est à l'origine de tous les autres, parce qu'ensuite, ce tableau va être copié à plusieurs reprises pour pouvoir inonder les églises et les collèges jésuites d'Europe et du Nouveau Monde.
Voilà, alors la suite après. Alors comment elle avance là? Ils sont dans le village, ils construisent... Ils reconstruisent l'habitation où ils sont, les lozes, ils sont en train de là. Alors comment ils avancent dans cette recherche?
Alors voilà, effectivement...
Je vous laisse le dire.
Quand ils arrivent dans cette maison, bon, ils se rendent compte que le toit s'est effondré. Donc ouais. Effectivement, il y a un peu de travail à faire. Denise, d'ailleurs, prend goût à ce travail de ses mains, ce qui fait que non seulement elle va aider Maxime à reconstruire le toit, mais surtout, elle va se mettre à...
Maxime, qui est son compagnon, qui est parti avec elle.
L'universitaire turc.
Voilà.
Et elle va se mettre aussi à dessiner un jardin oriental dans le maquis, au-dessus du village, ce qui va beaucoup l'occuper et ce qui va être en fait le point de départ de son lien avec la sultane, le tableau et la volonté de reconstituer cette histoire. Alors évidemment, ils sont dans le village, ils ne bougent pas du village, donc...
Ils sont cachés, là.
Voilà.
Ils sont, ouais.
Reconstituer l'histoire de ce tableau en restant là, c'est un peu compliqué. Simplement, il se trouve que le père de Denise avait commencé ce travail-là, puisque lui... Je l'ai dit, c'était un peu amouraché de ce personnage de sultane. Et il se trouve que le père a perdu sa femme tôt, la femme qui est donc la mère de Denise. Et c'était cette mère de Denise qui descendait de la sultane. Donc finalement, s'intéresser à la sultane, pour le père, c'est aussi une façon de garder la mémoire de sa femme. Donc ils ont quand même comme ça des éléments qui viennent du père, sur lesquels ils vont pouvoir travailler. Évidemment, ils utilisent désormais l'Internet mondial, il n'y a pas besoin d'être à Paris pour le faire. Et ils vont entamer petit à petit une correspondance avec le père qui est en prison à Istanbul, mais qui va finir par être autorisé par les autorités turques à communiquer avec sa fille. Et donc, c'est dans cette relation avec le père, le travail qui a été fait par le père, et puis les ressources du web mondial, que petit à petit, ils vont reconstituer l'histoire de la sultane et du tableau, sachant que l'enjeu de tout ça, c'est de retrouver l'original. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une copie, dont la famille a hérité depuis fort longtemps. C'est la copie avec laquelle Denise arrive dans le village. Mais,
qu'elle ne quitte pas, elle est toujours avec elle, cette copie, elle la garde précieusement.
Il y a d'autres copies, je l'ai dit, dans des églises et jésuites, mais eux, ils sont à la recherche de l'original. Cet original, il serait parti au Nouveau Monde, dans un couvent du Pérou. Il serait peut-être revenu du Pérou au moment où les jésuites sont chassés d'Amérique latine. Et il se trouve que les jésuites, et ça pour le coup je ne l'ai pas inventé, au moment où ils quittent l'Amérique latine, c'est toute l'histoire du film Mission qui avait obtenu la Palme d'Or dans les années 80 ou 90 à Cannes. Les jésuites sont... Par la volonté des couronnes européennes, hein, les Espagnols, les Portugais, les Français, et puis en liaison avec le Saint-Siège, ils sont chassés, expulsés des terres d'Amérique latine. Et au moment où ils sont chassés, donc ils rejoignent Rome, ils font un détour par la Corse. Ils s'arrêtent en Corse. Voilà, j'ai utilisé cette petite anecdote historique pour ensuite imaginer ce qu'avait pu devenir le tableau original.
Alors moi, je reviens un peu sur la construction qu'ils font dans ce village. Et je vous cite, « Désormais locule au milieu des ruines, ça a été la première idée de Denise, je prononce bien, de Denise. Dans un jardin, il faut de l'eau. Le site qu'elle a choisi est parfait. Une vaste terrasse plane, l'ombre des chênes lièges, le cachet des vieux murs abattus, mais il manque essentiel l'eau. » C'est tout à la fois un symbole, l'esprit vital, une nécessité pour les plantes qu'elle veut faire pousser ici, un élément de décor aussi, y compris sonore. Donc là, elle a énormément construit, ils ont reconstruit le village, quoi. Ils ont construit la maison, la plantation,
ce que vous disiez tout à l'heure, le jardin oriental au-dessus.
Voilà.
Et ça, j'étais attaché à cette idée parce que c'est, le roman est aussi une réflexion sur l'émigration, l'exil. On n'a pas l'habitude de parler de l'émigration française puisqu'on se vit plutôt comme une terre d'immigration. Mais de fait, il y a eu une émigration française moins importante que l'émigration italienne ou espagnole, par exemple. Mais il y a quand même un certain nombre de Français dans certaines régions, donc en Corse, dans le Pays Basque, dans les régions de montagne généralement, qui sont partis souvent en Amérique, Amérique latine ou aux États-Unis. Et voilà, le roman est aussi une réflexion sur l'exil. Et dans le cas de Denise, l'exil, ben c'est d'avoir quitté Istanbul et de se retrouver en Corse. Et ce jardin oriental est une façon pour elle quand même de cultiver ses racines.
Et on sent le retour de ces exilés en Corse, parce que quand on va dans le Cap notamment, il y a ces maisons qui ont été construites magnifiques. Quand je pense à Pinot, par exemple, où il y a des maisons anciennes magnifiques, là. Mmh. Il y a les tombeaux aussi qui sont avec des citations sur les gens et tout, sur ces routes, là.
Il y a une architecture des tombeaux extraordinaire.
Extraordinaire, extraordinaire. Oui. C'est donc là, et on ressent tout ça dans votre livre. On ressent tout ça dans le livre. Alors, on va pas raconter la fin.
Non,
parce
il faut pas
que,
tout dire.
Sinon, cher ami lecteur, La Sultane Corse, je vous le conseille vivement. Ce sera probablement un des grands livres de l'été. Le Figaro ne s'y est pas trompé cette semaine parce qu'ils ont fait un magnifique article sur le livre, donc bravo.
C'est vrai.
C'est un livre, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a des descriptions de paysages, il y a des lieux, il y a des choses qui se passent, des intrigues, là. C'est un livre vraiment remarquable. Remarquable.
Merci.
Moi, je trouve très intéressant parce que j'ai aussi une maison en Corse, dans le Cap, justement.
Ah ben voilà.
Vous saurez tout. Et en fait, je trouve que c'est presque un document. Parce qu'il y a finalement peu de choses sur l'histoire de Corse. Donc, c'est très intéressant. J'apprends plein de choses. Je suis là depuis longtemps. Puis je viens ici, en Corse, depuis que je suis toute petite, puisque ma maman aussi avait des ascendances. Et du coup, je trouve que c'est presque un document.
Oui, alors ce que j'ai essayé de faire...
Un document historique en tout cas. Hein.
Justement, oui.
Oui.
Il se trouve que... Il y a une forte actualité culturelle en Corse. Hein. C'est vrai que depuis quelques années, ça a commencé avec la musique, hein, qui a beaucoup rayonné. Hein. Je veux dire, les Mouvrines, ils ne sont pas connus qu'en Corse, désormais. Maintenant, ça se manifeste dans la littérature, dans le cinéma, dans les séries télé. Il y a vraiment une forte actualité culturelle corse. On pourrait d'ailleurs analyser les raisons de ça. Mais bien souvent, les fictions corses, que ce soit les romans ou le cinéma, encore plus les séries télé, s'attachent à deux choses, le nationalisme et le banditisme, qui sont des choses réelles, je veux dire, qui a, comment dire, imprime fortement la Corse contemporaine, mais évidemment, ça ne résume pas la Corse, ça n'est pas... Moi, le rapport que j'ai pu avoir avec la Corse à travers ma famille. Et je voulais parler d'une autre Corse, justement, donc la Corse des Corses qui ont quitté la Corse, la Corse de l'émigration, mais pas seulement. L'histoire corse, de manière plus générale, en remontant à des périodes plus anciennes. Voilà.
Magnifique. Alors, on est tous corses ici, parce que moi, j'ai ma grand-mère.
Formidable.
Ma grand-mère, qui est d'un village qui s'appelle Piedigrigio, pas loin dans la Balagne, là-haut. Voilà, quoi. Donc, je vais régulièrement en Corse. Et puis, comme je le disais, j'ai écrit tout un livre sur la Corse, sur les routes corses que j'ai parcourues à nombreuses reprises. Pas en vélo, mais beaucoup en moto, fédéralie voiture, en voiture et tout. Et la Corse, pour moi, c'est une terre magnifique, quoi. C'est un... Voilà. Et ce livre, moi, je suis admiratif parce que vous avez bien traduit, je dirais, l'esprit corse, l'ambiance corse, la musique corse et tout. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec un petit bobino qu'on va passer là, de pub, et après, on écoutera un peu de chant corse.
Ah, formidable.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
embellisce le montagne, mare scoglie le sponde, e senza oggi tremende lontana, chi pice chi dopo riomba.
Eh bien, voilà un chant corse pour illustrer un petit peu vos propos, Julien. Julien Donati, l'auteur de La Sultane Corse aux éditions du Rocher, qui vient de sortir. Lisez le Figaro et ça va vous donner envie de le lire si vous n'avez pas tout compris ce qu'on vous a dit. Mais je peux vous dire que c'est un magnifique livre et ce sera un des best-sellers, je le souhaite, de l'été.
Merci.
Voilà, alors là, on accueille aujourd'hui Florian Coupé. Alors Florian Coupé, moi je suis ébahi, épaté. Parce qu'il a effectué deux grands voyages à vélo. Il est polytechnicien, ambassadeur du scoutisme.
Exactement.
J'étais scout aussi, lito et scout, donc on se retrouve là aussi. Chasseur alpin, ingénieur, et a quitté la vie sédentaire pour des grands voyages à vélo.
Exactement.
Avec votre femme.
Alors ça, c'était il y a mon premier voyage, il y a une dizaine d'années. Effectivement, c'est ce que j'appelais ma route du Sud. C'était avec ma compagne de l'époque, qui plus est. Donc c'est un voyage d'un an, à ce moment-là, un voyage initiatique. Donc à travers les Balkans, à travers la Turquie, à travers l'Iran, à travers les Indes, la Birmanie. Donc c'était avant le coup d'État qui a eu lieu en 2019, si je ne me trompe pas. Donc à ce moment-là, la Birmanie s'ouvrait un petit peu et on n'est pas beaucoup à avoir eu l'opportunité de traverser ce pays par la terre à vélo. Et donc j'avais eu cette chance en 2015. Et après, on avait terminé en Asie du Sud-Est. Et la Birmanie, effectivement, c'était un peu le climax, le sommet de mon premier voyage, parce qu'on n'était pas beaucoup, parce que c'est un pays merveilleux. Ça venait après l'Inde. Et en fait, quand on traverse à vélo en Inde, c'est quand même assez...
D'être reparti par la Thaïlande après, non ?
Oui, après, on est reparti par la
Exactement,
Thaïlande.
Ouais.
Ouais, effectivement. Mais là, nous, on arrivait d'Inde, et l'Inde à vélo, c'est une attaque sur les cinq sens, on va dire. C'est assez intense au niveau sensoriel. Et après, on arrive en Birmanie. Et là, en Birmanie, on passe de l'hindouisme au bouddhisme. On passe vraiment une frontière de civilisation, mais le jour même, on passe la frontière. Et là, c'était beaucoup plus calme. Donc, un sentiment aussi de sécurité par rapport à
l'Inde,
ma compagne,
notamment.
Voilà, où c'était quand même pas forcément évident tout le temps. Donc, vraiment, une traversée assez extraordinaire. En revanche, une dictature. On avait eu quand même certains déboires avec... avec les autorités, parce qu'à ce moment-là...
Ouais, alors, toujours voilà. Compliqué.
Comme on est à vélo, en fait, on est autonome. Et ça, les dictatures n'aiment pas les voyageurs autonomes.
L'Inde à vélo. Moi, je l'ai fait à moto. Oui. Je suis monté... j'ai fait la route la plus haute du monde. Je suis monté à 6000 mètres à moto au col de Kardungla, au-dessus, etc. J'ai été effrayé en Inde. Parce que rouler... Je ne sais pas si vous partagez ça, mais rouler en Inde, quand je suis arrivé là-bas... C'est du grand n'importe quoi.
Ah bah, tout à fait. Tout
et quand
à
vous
fait.
Êtes à moto, à l'Inde, Paris, c'est un, c'est magnifique.
Ah bah, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors l'Inde, effectivement, c'est assez chaotique. Après, justement, comme c'est chaotique, c'est un peu lent, on va dire.
Oui.
Et du coup, on arrive à se faufiler et on a le temps de réagir par rapport au trafic assez anarchique. Moi, ce qui m'a marqué aussi en Inde, et en fait, ce contraste aussi avec la Birmanie, c'est que j'ai vu très peu de conductrices, notamment parce qu'il y a beaucoup de deux-roues et il y a beaucoup de triporteurs.
Oui, oui, oui.
Mais je crois qu'en Inde, vraiment...
Ils sont trois ou quatre sur une Vespa.
Plusieurs semaines de voyage sur les routes en Inde, voilà, j'avais dû voir peut-être deux ou trois conductrices. Et arrivé en Birmanie, on en voit partout,
en fait.
Donc ouais, ouais. Voilà, c'était vraiment une différence civilisationnelle qu'on a ressentie à ce moment-là.
Triste de voir ce que devient la Birmanie aujourd'hui.
Oui, bah effectivement, là, depuis le coup d'État, là, il y a une guerre civile qui était déjà présente quand on y était, sur les périphéries. Donc la Birmanie, c'est un pays, on va dire qu'il y a la plaine centrale avec le pouvoir central qui est depuis de toute éternité, j'ai envie de dire, en conflit avec ses périphéries montagneuses. Là, ça s'est accéléré. Donc j'ai pas regardé dernièrement quelles étaient la carte, on va dire, ouais. des hostilités.
Ouais,
mais
ouais.
Je sais que c'est devenu abominable. Un pays complètement chaotique et donc c'est un voyage qu'on ne peut plus faire aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est le 27e BCA qui vous a donné envie d'aller de circuler la montagne, le métier de chasseur alpin?
Oui, puis je dirais qu'il y a aussi peut-être...
Avec la devise du 27e BCA, vous la connaissez?
Oui, vivre libre ou mourir.
Vivre libre et mourir, toujours à l'affût.
Évidemment, évidemment. Ça vient de plein de choses, ce récit. Je pense qu'il y a un rapport à l'enfance également, il y a un rapport au récit d'aventure qu'on lit quand on est enfant, qui sont transcrits pour moi quand j'étais plus jeune aussi dans le scoutisme, qu'il y a un lien évident, on va dire, entre littérature et aventure, qu'on retrouve à différentes époques. Et après, j'ai tâché de développer ça comme adulte, donc en étant officier de réserve chez les chasseurs alpins, et également donc dans ces parenthèses que je m'offre tous les 10 ans à peu près, on va dire, donc cette route du sud, et en 2023 cette route du nord, où en fait justement la boucle était un peu bouclée, puisque là
c'est allé jusqu'en Corée.
On est allé jusqu'en Corée, donc là c'était une trajectoire par le nord de l'Himalaya. Il y a ce gros pilier dont vous parliez, que vous avez parcouru en moto. Moi j'ai plutôt préféré le contourner une fois par le sud il y a 10 ans et une fois par le nord. Et c'était pour aller en Corée où se déroulait le Jamboree, donc le rassemblement international du mouvement scout.
Du scout, ouais.
Voilà, qui se déroule tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Et c'était une manière de renouer avec ce qui m'a construit, et de renouer avec cette grande geste des aventures qui ont existé et qui existent encore de par le monde, qui sont forcément rares, puisque pour
c'est rassurant.
Voilà,
que ça existe
pour
encore.
Il faut quand même avoir certaines prédispositions et forcément c'est pas forcément donné à tout le monde, mais le mouvement scout, c'est un mouvement d'éducation par la nature et par l'aventure, qui, dans un monde de plus en plus urbanisé, vise quand même à reconnecter à la nature et à un peu d'audace pour la jeunesse du monde entier. Et donc, de tout temps, il y a eu des jeunes adultes, justement, qui se lançaient dans des expéditions comme ça. Et donc, nous, on voulait relancer ça, notamment après le Covid, qui nous a quand même tous un petit peu enfermés dans nos appartements, où la jeunesse a forcément subi cet enfermement de manière assez forte, qui a peut-être un peu réduit les imaginations de de beaucoup de jeunes. Et du coup, nous, on se disait, bah, voilà, il faut relancer ça. On va aller en Corée à vélo depuis la France et on va s'inscrire dans cette grande geste des expéditions.
Moi, j'ai lu votre livre. Incroyable, incroyable. Dites-moi, petite question. Vous avez commencé le livre par ce qu'on appelle un prolégomène.
Oui.
C'est vous qui avez choisi ce mot ?
C'est moi qui ai choisi ce mot.
Voilà, parce que je posais la question autour de moi, et les gens disent, mais c'est quoi ? C'est une préface ? C'est un truc ? Alors je leur expliquais que c'est une longue introduction utile pour comprendre et apprécier l'ouvrage.
Tout à fait.
C'est ça, hein ?
Tout à fait, d'accord. Exactement, voilà. C'était la préparation, et bah, comme le dit Joseph Kessel, les grands voyages ont ceci de merveilleux, que l'évasion commence dès la préparation, on ouvre les atlas, on commence à consulter les cartes, et on est déjà parti dans la tête.
Exactement.
En fait. Et c'est évidemment
on est d'accord.
Important de le raconter dans le livre.
Et c'est vrai que quand j'ai commencé Prolégomène, alors mon vieux souvenir, moi j'ai été éditeur, j'ai dirigé la maison Larousse, donc je me suis dit... Prolégomène, mais je connais, Prolégomène, c'est quoi c'est... J'ai ouvert mon dictionnaire et j'allais... voilà. Non, c'est... Alors, vous préparez votre voyage longtemps à l'avance ou pas ?
Je dirais que l'idée surgit justement pendant les confinements. Donc, je regarde un peu les actualités, je vois qu'en 2023, donc, ce sera en Corée. Je regarde la route entre la France et la Corée, je vois que...
La route alors, les cartes routières ?
Je regarde sur Internet,
surtout
on va dire, sur les grands atlas qui existent. Et bon, l'idée, évidemment, au début, c'est de tracer une route très générale à ce moment-là. Mm. Donc là, bon, je regarde, je vois le Caucase, je vois l'Asie centrale, je vois la Mongolie. Là, je me dis, ah, là, il y a quand même quelque chose à faire. Là, il
oui,
y a une belle route.
Il n'y a pas vraiment de national, là.
Non, il n'y a pas vraiment de national. On est dans des coins qui ne sont pas très touristiques, où justement, l'aventure vaut le coup d'être vécue. Et il y a une belle histoire à raconter et surtout à vivre avant. Donc, ça se construit comme ça. Et j'en parle. Je fais un petit rétro-planning, on va dire. Je vois qu'il faut 6-7 mois pour... aller là-bas, et j'en parle du coup un an avant le départ imaginé à mon premier équipier, Antonin, qui en fait j'avais été son chef scout, grosso modo, et il était plus jeune que moi, une quinzaine d'années plus jeune que moi, quand on avait été ensemble chef de patrouille, chef de troupe dans la troupe scout, on avait mené tambour battant la troupe, et je savais que c'était un équipier sur lequel je pouvais compter, qui était assez...
Vous les avez complètement convaincus, il y avait Antonin et Pierre. Hein.
Oui, et après on a recruté Pierre,
et
qu'on
Pierre.
Connaissait aussi.
Un scout aussi.
Ouais, exactement. J'avais été son responsable sur le temps d'un candidat, simplement. Je le connaissais un peu moins, mais c'est comme ça que s'est construit notre...
Ils ont été convaincus tout de suite.
Il a failli avoir une jeune femme aussi.
Et effectivement, mais j'aurais voulu, ça c'est... j'en parle aussi dans les prolégomènes, justement. J'aurais bien aimé qu'on soit quatre et qu'il y ait une jeune femme dans l'aventure, parce que justement ça aurait apporté un peu de diversité. On raconte dans le livre aussi certaines engueulades qu'on a pu avoir dans notre équipe, peut-être qu'avec une jeune femme on aurait pu avoir quelque chose d'un peu différent, aussi parce que tout simplement sur la route, quand on rencontre différentes familles, il y a certains systèmes familiaux, certaines cultures où on a toute une sphère qui nous est un petit peu cachée parfois quand on voyage avec une équipe de trois mecs. Et aussi parce que les femmes sont tout à fait capables de vivre ces aventures. Et en fait, on n'a pas trouvé de quatrième, homme ou femme. À un moment, j'ai été en contact avec une jeune femme qui, à mon avis, aurait fait une super équipière, mais elle a eu connaissance trop tard du projet, et du coup, elle était déjà engagée dans une...
Alors, je vais vous faire une confidence. Mon dernier raid en moto, on est parti, on est trois motards. Et on a convaincu une jeune femme de venir avec nous, qui était une motarde. Moi, j'avais un peu testé, parce que j'ai fait beaucoup de motos, voir si elle tenait la route. Et ça a été fantastique. Fantastique.
Évidemment, évidemment. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas de...
Ça a mis une ambiance, ça a mis un... Il y avait autre chose, quoi. Voilà.
Mais du coup, on n'a pas d'équipière, mais j'espère que les jeunes femmes sont présentes dans ce livre, parce qu'on a, on a forcément fait beaucoup de rencontres, on a vu beaucoup de responsables scouts qui nous ont aidés. On parle aussi d'autres expéditions qui existent, et on se rend compte que la plupart des expéditions depuis la création du scouting sont quand même essentiellement des expéditions masculines, Mais justement, la dernière dont on parle, c'est une équipe de Polonais qui font régulièrement des expéditions comme ça et qui, eux, pour le coup, comme ils ont, on va dire, l'expérience, qu'ils remettent le couvert tous les 4 ans, eux recrutent beaucoup plus d'équipières, d'aventurières dans leurs équipes.
Florian, alors la préparation du voyage, il y a le vélo.
Oui.
Parce que moi, je vois quand je pars en moto déjà... Quand j'ai fait toute l'Himalaya, on trouvait pas d'essence, les sacoches. Enfin bon, c'était la moto avec couché sous la tente dans des yourtes et tout. Mais et là, le vélo, comment vous faites pour le matériel? Parce qu'un vélo, c'est quand même pas. Puis il faut pédaler.
Ah oui, le effectivement. Poids. Effectivement.
Le poids.
Oui, oui.
Électrique.
Effectivement. Bah là, non, pas de vélo électrique parce que rechargé dans la steppe. Voilà, on a essayé de brancher la batterie sur un caillou, mais ça n'a pas marché. Donc là, oui, vélo 100%. Mécanique, donc après, bon, il y a toutes des considérations à prendre sur la solidité du vélo, sur un vélo qui soit adapté au vélo de cyclo-voyage. Après, c'est l'équipement, donc là, on compte les vêtements, on mutualise beaucoup et on commence déjà à avoir des débats au sein de l'équipe, justement, sur le poids emporté. sur l'équipe, justement, l'expérience parle un petit peu et j'ai mis un peu de temps à convaincre mes camarades. L'expérience est rentrée assez vite, on va dire, c'est-à-dire que quand on a commencé nos premiers tours de roues en Europe, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même pas mal de choses inutiles qui pouvaient renvoyer chez eux et qui leur feraient quand même un peu plus un sac un peu plus léger. Donc ça, c'est vraiment le grand sujet et le poids. Et après, finalement, c'est pas le sujet le plus difficile à mener. Après, le sujet, c'est de trouver la route parce que quand on veut traverser l'Europe et l'Asie, quand on veut aller à l'autre bout du continent.
Avec tous les obstacles qu'on pousse sur la route.
Exactement, tous les obstacles de relief, de climat et la géopolitique.
Qui peut changer entre-temps.
Et forcément, en fait, on se dit c'est très vaste, l'Asie, il y a plein de routes possibles. Mais en fait, par rapport à toutes les contraintes qui peuvent exister quand on veut y aller à la force musculaire, on se retrouve parfois... avec une route assez réduite et des obstacles assez importants à lever.
Dans le livre, vous dites c'est le premier coup de pédale qui compte. Ça m'a beaucoup amusé.
C'est-à-dire qu'il faut oser se lancer. Alors, c'est important de préparer. C'est important d'avoir pensé à différentes choses. Parfois, si on veut avoir tout préparé, on part jamais. Au bout d'un moment, il faut avoir surtout fait le choix.
Donner le top départ. C'est parti.
De rendre son appart, de laisser la voiture en garage quelque part. Pour moi, ça a été de mettre en parenthèse mon emploi sédentaire. Pour mes camarades de valider une année de césure avec leur parcours universitaire et à partir de là on était prêt à partir.
Combien de kilomètres? 16 000 kilomètres à peu près, non?
15 606.
J'étais pas loin,
au compteur.
16 000. Au compteur du vélo.
Au compteur du vélo, exactement.
Et alors, moi j'ai lu votre livre, vous êtes tombé dans des aventures et c'est extraordinaire, des rencontres d'abord qui étaient... Racontez-nous quelques belles rencontres.
Quelques belles rencontres, on en a plein. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Je pourrais vous raconter quand on est arrivé, une des premières grandes rencontres, quand on est arrivé en Roumanie.
Pas des rencontres avec les chiens qui...
Effectivement,
il y a les chiens qui courent après en vélo, ça devient...
Oui. Une rencontre qu'on a eue au tout début, dans les premières semaines, c'est quand on est arrivé en Roumanie. Justement, on était hébergés chaque soir par des groupes du mouvement scout. Et on a eu l'occasion de rencontrer un jeune, vraiment, je crois qu'il avait 19 ans, Paul, du mouvement des scouts roumains, qui avait été mis à l'honneur par l'organisation mondiale dans le cadre du programme Messager de la paix. Puisque ce jeune, quand la guerre en Ukraine... c'est déclenché et qu'il y avait des milliers de réfugiés ukrainiens qui partaient vers la Roumanie, il s'est porté, on va dire, vers le nord et en fait il a mis en place tout un système d'aide aux réfugiés avec la Croix-Rouge locale, avec la municipalité, avec les églises orthodoxes locales. Et ce jeune il avait 19 ans quand on l'a rencontré, il avait 17 ans quand il a fait ça, il en remonter aux adultes, tout simplement. C'est-à-dire qu'il avait un leadership assez impressionnant. Et quand il est retourné de temps en temps au lycée, les adultes étaient dépourvus. Ils disaient, mais où est-ce qu'il est, Paul ? Parce que là, on a besoin de son énergie, on a besoin de s'en sortir. Et donc, voilà, ça fait partie des rencontres qu'on
a faites. Il accueille des populations, des gens, toujours étonnés, admiratifs.
Ouais. Alors, la situation des réfugiés ukrainiens en Roumanie, c'est un petit peu stabilisé, ouais. Mais il est toujours actif. Maintenant, en fait, il va même en Ukraine pour organiser des camps de jeunes de manière à leur faire oublier un peu la guerre et à leur offrir un moment d'évasion.
Voilà, et donc la Corée, c'est des frontières à passer, donc des complications, parce que pour en avoir passé, le problème administratif, les passeports, les attentes au poste de douane, j'avais vécu tout ça.
Alors on a vécu tout ça, effectivement. Alors l'avantage du vélo, c'est qu'il n'y a pas besoin de papier pour le vélo. Par rapport à la moto, ça c'est quand même un gros avantage. Néanmoins, on a eu un sacré nombre de problèmes. Le premier qui nous est arrivé, c'était dans le Caucase. Puisque au nord c'était la Russie, alors c'était quand même un peu compliqué de traverser cette portion de Russie à vélo pour des raisons climatiques et pour des raisons géopolitiques. Au sud c'était l'Iran, on n'était quand même pas non plus ultra serein de le traverser à ce moment-là. Donc on voulait vraiment traverser.
L'Iran, vous l'avez traversé par le nord, par les montagnes, non ? Vous avez passé par Téhéran ?
Alors l'Iran, j'y suis passé il y a 10 ans, mais là sur ce voyage-là, de Frères de Guidon, on n'y est pas passé parce que justement on voulait plutôt tracer Géorgie et Azerbaïdjan. Et d'accord. Les frontières de l'Azerbaïdjan, depuis le Covid, sont intégralement fermées. Les frontières avec la Russie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran sont fermées. Prétexte, ça a été le Covid pendant longtemps.
Ouais.
Et c'est un prétexte commode, en fait, pour s'isoler complètement. L'Azerbaïdjan se voit comme un pays entouré d'ennemis. Et donc, c'était un prétexte. Donc, nous, on avait le président des scouts d'Azerbaïdjan qui était très enclin à nous aider, qui s'est démené. Qui avait eu des rendez-vous avec le ministre des Sports et de l'Éducation pour nous obtenir un laissez-passer. Et le ministre lui a dit, mais ça, il faut que ça remonte au Premier ministre. Donc, ça commençait à être un petit peu compliqué à avoir les autorisations. Il nous a dit qu'il pouvait les avoir, mais très clairement, on se disait que ça allait prendre trop de temps. Et à ce moment-là, on a pris une décision assez forte par rapport, on va dire, à notre projet, notre éthique de voyage. C'est-à-dire qu'on a choisi, effectivement, de prendre l'avion de Tbilissi jusqu'à Bakou pour rentrer en Azerbaïdjan. Mais on a mis les vélos le jour même dans un bus. On a fait 8 heures de bus pour aller au poste frontière qu'on n'avait pas pu traverser, de manière à faire un pied de nez aux autorités et avoir notre défi complet. Et on a traversé l'ensemble du pays à vélo. Et alors finalement, après, ça nous a permis aussi de découvrir la réalité de l'Azerbaïdjan. On était finalement assez contents de ne pas être redevables au Premier ministre d'une autorisation, puisque à ce moment-là, quand on a traversé l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui était sur le pied de guerre. Pour repartir à l'assaut du Haut-Karabakh et chasser les Arméniens. Et donc dans les rues, il y avait les portraits de soldats qui étaient décédés pendant la précédente guerre en 2020, qui était une propagande assez forte pour monter la population. Et quelques mois après qu'on y soit passé, ils ont remis le couvert. Donc c'était une ambiance forcément qui était assez oppressante pour nous. Mais ça fait partie aussi des découvertes, et c'est ça aussi qu'on recherche quand on voyage au long cours, au plus près des populations. La Mongolie extraordinaire. Donc là, c'était plus tard, on était au début de l'été, on est arrivé par l'Altaï, donc cette région montagneuse qui se trouve au niveau de la région des quatre frontières, et on a mis 5 ou 6 semaines pour traverser la Mongolie. La Mongolie, c'est 3 fois la surface de la France, avec 3 millions et demi d'habitants. Donc c'est vide. Là, pour le coup, on a des grands espaces à gogo, à foison. Il faut réfléchir effectivement là où on se ravitaille. Nous, on se ravitaillait plus ou moins une fois par jour. On arrivait sur la route à trouver un magasin une fois par jour, tous les 80 ou tous les 100 km. Et comme c'était le début de l'été, on a eu aussi pas mal de tempêtes qu'on a affronté, des tempêtes de sable. Et la tempête de sable, c'est quand même quelque chose.
L'horreur. Et la Chine, vous avez...
Et la Chine, donc on a pu y rentrer à partir de la Mongolie. C'était la fin du voyage. Et alors là, aussi un énorme contraste. Vraiment, le jour où on passe la frontière entre la Mongolie et la Chine, le PIB fait un bond de x10, quoi. Et on avait vraiment l'impression de revenir un peu en Europe en termes de développement. Donc ça nous a quand même un petit peu désensauvagé, on va dire, avant d'arriver jusqu'en Corée, parce qu'après 4 mois dans la steppe, on était quand même devenu un petit peu comme les guerriers mongols ou les guerriers kirghizes. Voilà, c'était quand même pas mal de nous remettre un petit peu dans la civilisation urbaine, impressionné par le dynamisme des régions traversées.
Florian, le logement, le soir, on se retrouve, on est en Mongolie, dans la steppe.
Ah bah on plante la tente.
C'était
l'absolue liberté. Ça, c'est ça qui est quand même assez fabuleux. Donc, dès qu'on est arrivé au Kazakhstan, dès qu'on arrive dans la région de steppe, là, on a planté la tente très, très souvent. Voilà, de temps en temps, quand même, on prenait un hébergement.
Et pas de problème
pour
de sécurité, pas quelquefois des...
Non, ça a été vraiment. On avait lu beaucoup avant de blogs, de voyages, et on avait eu des échos parfois assez défavorables. Et franchement, on n'a jamais eu de problème sur les campements. On nous avait dit notamment avec des personnes alcoolisées. Alors, on en a rencontré quelques-unes, mais on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de bagarre avec.
Et les gens étaient plutôt admiratifs de vous voir débarquer.
Tout à fait, mais ça crée du lien en fait.
Exactement.
Et ça crée du lien en fait quand on est un voyageur dans une situation entre guillemets de un peu de fragilité. Les gens sont plus enclins à vous aider et plus enclins à vous découvrir. Ils vous voient pas comme un dollar ambulant. Forcément, ils vont beaucoup plus établir le contact avec vous.
Ouais, j'ai connu ça dans l'Himalaya où les gens étaient formidables. Mmh. On s'arrêtait, c'était. On avait des problèmes d'essence, on avait pas des problèmes de chaîne de vélo, mais
exactement, oui, c'est
d'autres problèmes. Voilà. Et les gens étaient admiratifs, posaient des questions, d'où vous venez, ils nous regardaient avec des yeux ronds. C'était assez curieux. Votre prochain voyage.
Oh, mon prochain voyage.
Il y a la Corse, hein.
Pourquoi pas, effectivement. Ouais, effectivement,
il y avoir beaucoup de l'Asie centrale aussi dans le roman.
Mais ça doit pas être simple, la Corse, hein, parce que c'est quand même.
Non, mais il y a plein de choses à faire.
Ah, voilà, moi j'ai un ami qui l'avait fait justement avec un de ses amis en vélo. C'est pas facile, hein.
Oui, effectivement, mais il y a plein d'aventures.
Par rapport à.
Il y a plein d'aventures sur quelques semaines qui sont à mener. Et forcément,
par rapport à ce qu'a fait Florian, la Corse, c'est comme moi quand je vais en Normandie en vélo, quoi.
Je suis un peu plus plat.
Oui.
Effectivement, il y a des choses à mener pour aller moins loin. Aujourd'hui, mon grand challenge, c'est aussi d'accompagner d'autres à se lancer, notamment au sein du mouvement scout. On parlait de la Corse. Bah justement, j'étais avec une équipe nationale qui me disait, nous, on a un peu marre de valider des projets d'équipes de scouts qui veulent faire le GR20 en Corse. Voilà. Parce que c'est un peu classique.
Ah bah
et
oui,
il le
faut
en plus pendant les périodes estivales, en juillet, en août, quand c'est plein.
Difficile le GR20, hein. Il y a des endroits
effectivement,
qui sont
effectivement.
Pas faciles. Hein.
Mais, et du coup, il faut aussi trouver un peu de variété, peut-être pas forcément faire ce que tout le monde fait, et c'est aussi un des sens du témoignage que je propose, et je suis en contact avec beaucoup d'équipes qui cherchent des idées, en fait, et qui commencent à les trouver, j'espère, par cette lecture.
Voilà. Florian Coupé, merci. Je rappelle votre livre « Frères de Guidon, jusqu'en Corée à vélo, trois amis, un défi fou et 15 000 kilomètres, un peu plus d'ailleurs, à travers l'Eurasie ». Moi, j' ai été épaté parce que c'est l'exploit, quoi. C'est faire ça, c'est remarquable. Merci d'être venu. Je sais que vous êtes venu de Lyon pour nous parler de cette aventure.
Merci beaucoup.
J'ai lu votre livre, je l'ai bu, et puis il y a des endroits que je vais revenir un peu parce que j'ai pas... Voilà. Voilà. Alors, je voudrais aussi remercier... Julien Donatil pour La Sultane Corse, un livre là aussi pour l'été sur les plages. J'espère qu'on va le voir un peu partout.
J'espère aussi.
Non, pas seulement sur les plages de Corse, hein, sur les plages un peu partout. Voilà, La Sultane Corse, Julien Donatil aux éditions du Rocher, et puis le magnifique livre Les grands hommes, et le diable de Christine Gauquet. Là aussi, on en a beaucoup parlé. Là, vous allez avoir des surprises, des découvertes extraordinaires. Voilà, merci d'être venu, merci pour votre accueil. On vous souhaite un bon été, parce que là, on va attaquer le mois de juin. Et puis, à très bientôt, j'espère vous recevoir pour vos prochains livres ou vous recroiser dans d'autres lieux. Merci.
Merci.
Merci. Merci à vous.
Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des éditeurs, créé par Jean-Yves Dournon et dirigé par Jean-Paul Nadéo, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 5 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.